Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
Bonjour Philippe Duport.
Bonjour Marie.
Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Aujourd'hui, l'esclavage aboli partout dans le monde. Mais de fait, Philippe, l'esclavage moderne existe. Cela concernerait même plusieurs dizaines de millions de personnes.
Oui, entre 21 et 46 millions de personnes. Ça va du simple au double, hein, selon que l'on prend en compte les chiffres de l'Organisation internationale du travail ou ceux de l'Organisation de défense des droits de l'homme, Walk Free. Un cas emblématique parmi des dizaines de milliers rapportés par Amnesty International. Celui d'un ouvrier népalais métallurgiste. Il travaille au Qatar sur les chantiers de la Coupe du Monde de football de 2022, mais il vit comme en prison. Il n'a pas été payé depuis plusieurs mois, il se plaint, et en retour, son employeur l'insulte et le menace de ne plus le laisser quitter le pays. Comme lui, des dizaines de milliers de travailleurs népalais, indiens ou bengalis sont en situation de travail forcé au Qatar, rapporte Amnesty International. Mais c'est l'Inde qui compte la plus grande population d'esclaves modernes, avec 14 millions de personnes.
Effectivement, c'est surtout en Asie que l'esclavagisme moderne sévit.
Oui, les 2/3 des esclaves se trouvent aujourd'hui sur ce continent, dans l'ordre en Inde, en Chine, au Pakistan, au Bangladesh ou en Ouzbékistan. Mais il y a aussi le cas de la Corée du Nord. Elle est le seul pays au monde à ne pas avoir fait de l'esclavage un crime. 4,3% des Nord-Coréens seraient concernés. Il s'agit d'une véritable économie. Le régime fait travailler ses citoyens retenus dans des camps. Il envoie aussi à l'étranger des travailleurs qui ne récupèrent qu'une toute petite partie de leur salaire. De l'autre côté de la planète, en Haïti, il y a les restes avec, les enfants qui sont placés dans des familles plus riches que leur famille d'origine, mais ils sont souvent battus et exploités. Et puis les migrants et les réfugiés, près d'1/3 des victimes d'esclavage le sont après avoir traversé une frontière.
Et en France, Philippe, le phénomène a disparu.
Alors l'organisation Walk Free affirme que 12 000 personnes seraient victimes d'esclavage moderne en France. C'est par exemple cet employé de maison ivoirien dans le Cher qui travaillait tous les jours de 8h à 21h. Une heure, avec seulement un dimanche sur deux pour se reposer, logé et nourri, mais il n'était seulement payé que de façon irrégulière, de la main à la main. Son employeur, un retraité, a été condamné il y a quelques mois à 1 an de prison avec sursis.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
Bonjour Philippe Duport.
Bonjour Marie.
Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Aujourd'hui, l'esclavage aboli partout dans le monde. Mais de fait, Philippe, l'esclavage moderne existe. Cela concernerait même plusieurs dizaines de millions de personnes.
Oui, entre 21 et 46 millions de personnes. Ça va du simple au double, hein, selon que l'on prend en compte les chiffres de l'Organisation internationale du travail ou ceux de l'Organisation de défense des droits de l'homme, Walk Free. Un cas emblématique parmi des dizaines de milliers rapportés par Amnesty International. Celui d'un ouvrier népalais métallurgiste. Il travaille au Qatar sur les chantiers de la Coupe du Monde de football de 2022, mais il vit comme en prison. Il n'a pas été payé depuis plusieurs mois, il se plaint, et en retour, son employeur l'insulte et le menace de ne plus le laisser quitter le pays. Comme lui, des dizaines de milliers de travailleurs népalais, indiens ou bengalis sont en situation de travail forcé au Qatar, rapporte Amnesty International. Mais c'est l'Inde qui compte la plus grande population d'esclaves modernes, avec 14 millions de personnes.
Effectivement, c'est surtout en Asie que l'esclavagisme moderne sévit.
Oui, les deux tiers des esclaves se trouvent aujourd'hui sur ce continent, dans l'ordre en Inde, en Chine, au Pakistan, au Bangladesh ou en Ouzbékistan. Mais il y a aussi le cas de la Corée du Nord. Elle est le seul pays au monde à ne pas avoir fait de l'esclavage un crime. 4,3% des Nord-Coréens seraient concernés. Il s'agit d'une véritable économie. Le régime fait travailler ses citoyens retenus dans des camps. Il envoie aussi à l'étranger des travailleurs qui ne récupèrent qu'une toute petite partie de leur salaire. De l'autre côté de la planète, en Haïti, il y a les restes avec, les enfants qui sont placés dans des familles plus riches que leur famille d'origine, mais ils sont souvent battus et exploités. Et puis les migrants et les réfugiés, près d'un tiers des victimes d'esclavage le sont après avoir traversé une frontière.
Et en France, Philippe, le phénomène a disparu.
Alors l'organisation Walk Free affirme que 12 000 personnes seraient victimes d'esclavage moderne en France. C'est par exemple cet employé de maison ivoirien dans le Cher qui travaillait tous les jours de 8h à 21h. Une heure, avec seulement un dimanche sur deux pour se reposer, logé et nourri, mais il n'était seulement payé que de façon irrégulière, de la main à la main. Son employeur, un retraité, a été condamné il y a quelques mois à un an de prison avec sursis.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Eh bien, si vous étiez en face de moi, je vous dirais bonjour avec des gestes, mais vous êtes malheureusement à Lausanne et moi à Lugano. Donc on va communiquer comme d'habitude avec des mots.
Et vous dites ça parce qu'on va parler d'un projet qui passe par les mains justement.
Oui, le projet tessinois Uniwording, une langue des signes à penser pour les gens qui ne sont pas sourds ou malentendants. Le défi principal de l'association depuis sa fondation en 2012, c'est celui de développer un langage des signes accessible à toutes et à tous.
Un langage des signes pour les entendants, c'est quoi le but du coup ?
Le but est justement de faciliter la communication entre tout le monde en utilisant des signes universels qui permettent d'aller au-delà des barrières linguistiques et des provenances. L'objectif est de créer une méthode d'auto-apprentissage assez simple grâce à l'application Uniwording qui va être développée dans les prochains mois. Cette modalité de communiquer rend la rencontre, disons, plus amicale.
Donc l'idée, c'est construire une sorte de langue universelle mais qui passe par les mains. C'est une association tessinoise qui a lancé ça. Comment est-ce qu'on construit cette nouvelle langue des signes pour toutes et tous ?
Eh bien, après avoir analysé le même mot dans les principales langues des signes, ils ont choisi le plus représentatif. Ils ont construit une image qui montre la dynamique du geste et ils ont ajouté une description explicative. Donc, le dessin permet d'interpréter correctement le geste qu'on doit apprendre.
Alors, pour comprendre quelque chose, le mieux, c'est toujours un exemple. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple ?
Eh bien, prenons le mot Uniwording. Le signe prévoit un tour de la main qui se serre sur elle-même en laissant l'index soulevé. De cette façon, on représente un tour du monde symbolique qui réunit tous dans un même idiome. Et pour s'approcher à ce langage, et en attendant le développement de l'application chez Uniwording, ils ont créé un jeu de cartes très intéressant aussi pour les enfants.
En fait, c'est un peu l'espéranto en langage des signes, Jenny Alessi. Du coup, c'est très ambitieux quand même. On sait que l'espéranto s'était un peu cassé les dents.
Oui, mais Mirella De Paris, la présidente, et Silverio Pedrini, le co-président de l'association, sont des personnes très déterminées et très motivées. Leur objectif est de créer une communication universelle à travers une langue des signes simple, composée par 1600 mots, qui permet de se comprendre dans des situations fréquentes, à l'étranger, en vacances, ou bien quand on doit émigrer dans un pays où tout le monde parle une langue étrangère. Uniwording pourrait aussi être utile dans des situations d'urgence, comme chez un médecin, quand on a besoin d'avoir une information importante, ou même pour mieux se connaître.
Et puis, pour être très clair, Jenny, c'est donc complètement autre chose que le langage des signes qu'on connaît.
Oui, c'est tout à fait autre chose. Le langage des signes, c'est une langue conçue pour les sourds et les malentendants, qui est reconnue dans la constitution de beaucoup de pays, mais pas dans la Suisse. Mmh. Elle fait partie de notre mandat dans le sens où la SSR doit rendre accessible la communication à tout le monde. La SSR qui a conclu un accord avec 7 organisations de personnes atteintes de déficience sensorielle pour soutenir et intégrer ces groupes. Et le nouvel accord est basé sur la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Et sur nos chaînes, il y a par exemple Signe, un samedi par mois à 10h à la télévision, ou bien le téléjournal qui est disponible signé sur RTS2 tous les soirs.
Émission Signe qui passe aussi sur la RSI et c'est pareil avec le téléjournal de 20h qu'on peut voir en langue des signes en appuyant sur la touche rouge, il tasto rosso.
C'est comme ça que ça s'appelle en italien. La langue des signes, voilà. Ou ce projet tessinois Uniwording, du coup vous les tessinois vous avez une sacrée avance, vous parlez naturellement avec les mains, Jenny, c'est pas un cliché si je dis ça, ça vous vexe pas?
Oh non, vous avez bien raison, on a hérédité ça de nos voisins italiens. Quand on parle, d'habitude, on bouge des mains aussi. On aime bien souligner ce qu'on dit par des gestes. Je suis en train de le faire maintenant, justement. Je ne sais pas d'où vient cette coutume, peut-être tout simplement de notre besoin du contact humain, verbal et physique.
Et de la chaleur naturelle qui se propage au sud des Alpes. Merci beaucoup, Jenny Alessi.
Voilà.
Une toute bonne journée à vous.
Merci, Lucas. Bonne continuation. A presto.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Eh bien, si vous étiez en face de moi, je vous dirais bonjour avec des gestes, mais vous êtes malheureusement à Lausanne et moi à Lugano. Donc on va communiquer comme d'habitude avec des mots.
Et vous dites ça parce qu'on va parler d'un projet qui passe par les mains justement.
Oui, le projet tessinois Uniwording, une langue des signes pensée pour les gens qui ne sont pas sourds ou malentendants. Le défi principal de l'association depuis sa fondation en 2012, c'est celui de développer un langage des signes accessible à toutes et à tous.
Un langage des signes pour les entendants, c'est quoi le but du coup ?
Le but est justement de faciliter la communication entre tout le monde en utilisant des signes universels qui permettent d'aller au-delà des barrières linguistiques et des provenances. L'objectif est de créer une méthode d'auto-apprentissage assez simple grâce à l'application Uniwording qui va être développée dans les prochains mois. Cette modalité de communiquer rend la rencontre, disons, plus amicale.
Donc l'idée, c'est construire une sorte de langue universelle mais qui passe par les mains. C'est une association tessinoise qui a lancé ça. Comment est-ce qu'on construit cette nouvelle langue des signes pour toutes et tous ?
Eh bien, après avoir analysé le même mot dans les principales langues des signes, ils ont choisi le plus représentatif. Ils ont construit une image qui montre la dynamique du geste et ils ont ajouté une description explicative. Donc, le dessin permet d'interpréter correctement le geste qu'on doit apprendre.
Alors, pour comprendre quelque chose, le mieux, c'est toujours un exemple. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple ?
Eh bien, prenons le mot Uniwording. Le signe prévoit un tour de la main qui se serre sur elle-même en laissant l'index soulevé. De cette façon, on représente un tour du monde symbolique qui réunit tous dans un même idiome. Et pour s'approcher à ce langage, et en attendant le développement de l'application chez Uniwording, ils ont créé un jeu de cartes très intéressant aussi pour les enfants.
En fait, c'est un peu l'espéranto en langage des signes, Jenny Alessi. Du coup, c'est très ambitieux quand même. On sait que l'espéranto s'était un peu cassé les dents.
Oui, mais Mirella De Paris, la présidente, et Silverio Pedrini, le coprésident de l'association, sont des personnes très déterminées et très motivées. Leur objectif est de créer une communication universelle à travers une langue des signes simple, composée par 1600 mots, qui permet de se comprendre dans des situations fréquentes, à l'étranger, en vacances, ou bien quand on doit émigrer dans un pays où tout le monde parle une langue étrangère. Uniwording pourrait aussi être utile dans des situations d'urgence, comme chez un médecin, quand on a besoin d'avoir une information importante, ou même pour mieux se connaître.
Et puis, pour être très clair, Jenny, c'est donc complètement autre chose que le langage des signes qu'on connaît.
Oui, c'est tout à fait autre chose. Le langage des signes, c'est une langue conçue pour les sourds et les malentendants, qui est reconnue dans la constitution de beaucoup de pays, mais pas dans la Suisse. Mmh. Elle fait partie de notre mandat dans le sens où la SSR doit rendre accessible la communication à tout le monde. La SSR qui a conclu un accord avec 7 organisations de personnes atteintes de déficience sensorielle pour soutenir et intégrer ces groupes. Et le nouvel accord est basé sur la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Et sur nos chaînes, il y a par exemple Signe, un samedi par mois à 10h à la télévision, ou bien le téléjournal qui est disponible signé sur RTS2 tous les soirs.
Émission Signe qui passe aussi sur la RSI et c'est pareil avec le téléjournal de 20h qu'on peut voir en langue des signes en appuyant sur la touche rouge, il tasto rosso.
C'est comme ça que ça s'appelle en italien. La langue des signes, voilà. Ou ce projet tessinois Uniwording, du coup vous les tessinois vous avez une sacrée avance, vous parlez naturellement avec les mains Jenny, c'est pas un cliché si je dis ça, ça vous vexe pas?
Oh non, vous avez bien raison, on a hérédité ça de nos voisins italiens. Quand on parle, d'habitude, on bouge des mains aussi. On aime bien souligner ce qu'on dit par des gestes. Je suis en train de le faire maintenant, justement. Je ne sais pas d'où vient cette coutume, peut-être tout simplement de notre besoin du contact humain, verbal et physique.
Et de la chaleur naturelle qui se propage au sud des Alpes. Merci beaucoup, Jenny Alessi.
Voilà.
Une toute bonne journée à vous.
Merci, Lucas. Bonne continuation. A presto.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 3. Première écoute. Document numéro 1.
Nathalie Fontrelle, vacances propres est lancée aujourd'hui pour sensibiliser les Français et les touristes à ne pas jeter leurs déchets par terre.
6 tours Eiffel, c'est l'équivalent en poids des déchets sauvages ramassés l'an passé. Et ce bilan est sous-estimé, c'est surréaliste. Mais ce n'est pas nouveau malheureusement. Ça fait 46 ans que l'association Vacances Propres tente de convaincre de ne pas jeter les déchets par terre en équipant les espaces de sacs poubelles. Elle insiste sur le tri, elle veut convaincre les citoyens de ramasser les déchets abandonnés. C'est ce que fait le parrain de la campagne, le plongeur Jean-Michel Cousteau, le fils du commandant. Et ce n'est pas un hasard, ce que nous jetons par terre finit souvent dans les océans. D'après lui, 88% de la surface des océans est polluée.
Document numéro 2.
Nathalie Fontrelle, les déchets plastiques dans les océans servent d'embarcation aux micro-organismes.
Oui, ils s'accrochent sur les déchets plastiques. Ils voyagent gratuitement dans tous les océans du monde. Comme sur des radeaux, ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres d'après le CNRS, poussés par les courants marins. Les chercheurs français ont analysé des échantillons. Ils en ont trouvé plus sur les déchets plastiques que dans la mer dans laquelle ils naviguent. C'est une des expéditions 7e continent qui a rapporté ces confettis de plastique et leurs habitants. Elle met régulièrement le cap sur ce continent en Atlantique Nord où les déchets sont bloqués par un tourbillon au point de former une sorte d'île de déchets.
Et le plastique est colonisé
par des micro-organismes dont certains sont pathogènes. Les chercheurs ont eu un espoir que ces organismes dégradent le plastique au point de le faire disparaître, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En revanche, il y a un vrai danger. Les micro-organismes risquent de déséquilibrer le milieu marin qui n'a pas l'habitude de vivre avec ses nouveaux habitants.
Document numéro 3.
Nathalie Fontrelle, le leader des shampoings, lance aujourd'hui un emballage en plastique de plage.
Oui, le gisement, c'est malheureusement une mine d'or. Tous ces déchets plastiques qui polluent les plages, évidemment, il faut les ramasser. Rien de mécanique dans l'histoire. Il faut des bras. 1000 bénévoles, membres d'associations écolos, ont dit oui. Ils ramassent d'ailleurs depuis des années déjà pour dépolluer les plages. Cette fois-ci, ils savent qu'une partie des déchets sera recyclée. Les bouteilles sont triées pour écarter le plastique qui ne convient pas au recyclage, puis nettoyer pour enlever les algues et autres éléments naturels qui auraient eu l'idée de se coller dessus. Elles sont broyées, le tout se transforme en petites pastilles qui sont livrées aux fabricants.
Et elles entrent dans la composition de nouveaux flacons.
À hauteur de 25% dans les bouteilles mélangées au plastique vierge.
Sujet numéro 3. Deuxième écoute. Document numéro 1.
Nathalie Fontrelle, vacances propres est lancée aujourd'hui pour sensibiliser les Français et les touristes à ne pas jeter leurs déchets par terre.
6 tours Eiffel, c'est l'équivalent en poids des déchets sauvages ramassés l'an passé. Et ce bilan est sous-estimé, c'est surréaliste. Mais ce n'est pas nouveau malheureusement. Ça fait 46 ans que l'association Vacances Propres tente de convaincre de ne pas jeter les déchets par terre en équipant les espaces de sacs poubelles. Elle insiste sur le tri. Elle veut convaincre les citoyens de ramasser les déchets abandonnés. C'est ce que fait le parrain de la campagne, le plongeur Jean-Michel Cousteau, le fils du commandant. Et ce n'est pas un hasard. Ce que nous jetons par terre finit souvent dans les océans. D'après lui, 88% de la surface des océans est polluée.
Document numéro 2.
Nathalie Fontrelle, les déchets plastiques dans les océans servent d'embarcation aux micro-organismes.
Oui, ils s'accrochent sur les déchets plastiques. Ils voyagent gratuitement dans tous les océans du monde. Comme sur des radeaux, ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres d'après le CNRS, poussés par les courants marins. Les chercheurs français ont analysé des échantillons. Ils en ont trouvé plus sur les déchets plastiques que dans la mer dans laquelle ils naviguent. C'est une des expéditions 7e continent qui a rapporté ces confettis de plastique et leurs habitants. Elle met régulièrement le cap sur ce continent en Atlantique Nord où les déchets sont bloqués par un tourbillon au point de former une sorte d'île de déchets.
Et le plastique est colonisé
par des micro-organismes dont certains sont pathogènes. Les chercheurs ont eu un espoir que ces organismes dégradent le plastique au point de le faire disparaître, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En revanche, il y a un vrai danger. Les micro-organismes risquent de déséquilibrer le milieu marin qui n'a pas l'habitude de vivre avec ses nouveaux habitants.
Document numéro 3.
Nathalie Fontrelle, le leader des shampoings, lance aujourd'hui un emballage en plastique de plage.
Oui, le gisement, c'est malheureusement une mine d'or. Tous ces déchets plastiques qui polluent les plages, évidemment, il faut les ramasser. Rien de mécanique dans l'histoire. Il faut des bras. 1000 bénévoles, membres d'associations écolos, ont dit oui. Ils ramassent d'ailleurs depuis des années déjà pour dépolluer les plages. Cette fois-ci, ils savent qu'une partie des déchets sera recyclée. Les bouteilles sont triées pour écarter le plastique qui ne convient pas au recyclage, puis nettoyé pour enlever les algues et autres éléments naturels qui auraient eu l'idée de se coller dessus. Elles sont broyées, le tout se transforme en petites pastilles qui sont livrées aux fabricants.
Et elles entrent dans la composition de nouveaux flacons.
À hauteur de 25% dans les bouteilles mélangées au plastique vierge.